Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. L'émission Les Capsules du patrimoine déchiffre une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. L'équipe du service inventaire du Pays Midi-Quercy vous fait part de ce qu'elle a découvert par le biais de ses recherches. On retrouve aujourd'hui, et comme tous les mois, Sandrine Rueffli et Carole Stadnicki. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on sort les cartables, on ouvre les cahiers, on sort la plume et le papier buvard, car on retourne à l'école du 19e siècle. Celle qui sentait bon le bois, la craie et l'encre. Dans les années 1880, les écoles se multiplient en France grâce à Jules Ferry qui rend l'instruction primaire obligatoire. En Pays Midi-Quercy, la cinquantaine d'écoles de la Troisième République est facilement repérable dans le paysage urbain et rural. Ces écoles servent aujourd'hui le plus souvent de mairie, de bureaux de poste, de médiathèque ou de simples maisons d'habitation. Dans cette émission, nous parlerons des écoles publiques et laïques, des modèles identiques ou des cas particuliers, des écoles congréganistes, mais avant ça, une brève histoire de la scolarisation.
Alors, ce n'est pas ce sacré Charlemagne, mais plutôt François Guizot qui a obligé les communes à construire des écoles en 1833. Donc, on est bien au 19e siècle. Les écoles se multiplient ici, en Pays Midi-Quercy, mais c'est vraiment le cas partout en France, hein, dans les années 1870-1880. Alors pourquoi à cette époque-là? C'est qu'il y a une véritable prise de conscience qui se fait après la défaite de 1870. Alors ça, c'est une guerre, la première guerre franco-allemande, qui était appelée aussi guerre franco-prussienne, qui oppose la France à l'Allemagne. Et c'est un peu, après l'échec de cette guerre, cette défaite, c'est un peu comme si le maître d'école allemand avait battu l'armée française. En d'autres mots, la France ne peut pas être une grande nation si elle ne développe pas son enseignement. Voilà ce qu'il fallait en tirer. Donc des programmes d'enseignement sont fixés. Alors il y a dans ces programmes les traditionnels cours de lecture, écriture, calcul, histoire, géographie. Mais il y a aussi des travaux manuels pour les plus petits, donc pour les classes maternelles qui sont dites classes enfantines à l'époque. Et il y a aussi des cours de repassage et des cours de couture pour les filles. Pas pour les garçons. On est encore assez loin de l'égalité homme-femme, hein. On n'y est pas encore. Au milieu du 19e siècle, il y a donc beaucoup d'écoles provisoires qui se trouvent au rez-de-chaussée des mairies ou dans une maison de ville, avant qu'on construise un nouveau bâtiment qui ne servira qu'à l'école. Il y a une loi en 1878 qui impose aux communes d'être propriétaires de leur école et d'avoir en charge tous les frais. Tout s'accélère ensuite avec une série de lois qui sont engagées par Jules Ferry, le fameux Jules Ferry, qui rend l'instruction primaire obligatoire en 1881. Donc, des nouvelles constructions voient le jour un peu partout, selon des modèles qui sont très reconnaissables, qui respectent des nouveaux critères dont Sandrine vous parlera tout à l'heure. Avant cela, on a trouvé assez opportun de vous lire un petit compte-rendu, une lettre d'un personnel de l'époque. C'est un délégué cantonal de l'instruction primaire qui écrit au préfet de Tarn-et-Garonne le 30 octobre 1880 un petit état de des conditions de scolarisation des élèves de l'école de garçons de Sept-Fonds. Alors je vous lis quelques extraits parce que je trouve ça assez édifiant. Alors à Sept-Fonds, dans une salle, les enfants sont placés les uns contre les autres. Impossible de faire le moindre mouvement. Les tables qui garnissent toute la salle ne sont cependant espacées que de 20 cm. Les élèves les plus jeunes sont assis sur des bancs le long des murailles et attendent pour faire leur travail d'écriture que leur camarade ait fini afin de prendre leur place aux tables, alors que ces derniers vont à leur tour s'asseoir sur des bancs. Quand les élèves sont tous au travail, il y a un encombrement et il est impossible de faire le moindre mouvement avec bon ordre. Non seulement la salle de classe est mal située et trop petite, mais elle manque complètement d'annexes indispensables. Il n'y a ni lieu d'aisance pour les enfants, ni pré au couvert, ni cour, ni jardin. Les enfants sont obligés de sortir pour vaquer à leurs besoins et de parcourir une distance de 100 mètres environ pour aller encore à découvert dans une ruelle de la ville. Par les temps de pluie, les élèves vont s'abriter pendant la récréation sous la halle placée au-dessous du logement de l'instituteur. Mais la plupart du temps, cette halle est occupée par des charpentiers, des étameurs ambulants et des marchands étrangers. Alors les enfants sont naturellement obligés de rester dans la rue ou bien où a lieu, pardon, la récréation. Et dans cette circonstance, toute surveillance de la part des maîtres devient impossible. Enfin, rien de ce qui peut attirer l'enfant à l'école et la lui faire aimer ne se trouve dans celle de Sept-Fonds. Bon, vous voyez, c'était pas la joie, hein, l'école de garçons à Sept-Fonds. À cette époque, elle est dans la mairie actuelle de Sept-Fonds, au rez-de-chaussée. Et puis ensuite, enfin, en 1881, on propose de construire une autre école à Sept-Fonds, dans un bâtiment indépendant qu'on voit encore de nos jours, hein, qui se trouve le long de l'avenue Marcel Lacassagne, au bord de l'ancienne route royale qui traverse Sept-Fonds. Et là, c'est un bâtiment qui comporte trois classes de garçons et qui est uniquement réservé à l'enseignement, comme il se doit à cette époque. Donc, en fonction des communes et des besoins, soit on construit à cette époque-là, à la fin du 19e, une école simplement pour les garçons, soit une école de filles, soit une mairie-école, soit un établissement où on loge également l'instituteur, soit l'instituteur est logé ailleurs. C'était le cas à Sept-Fonds, il était logé au-dessus de la mairie, donc il n'a pas été nécessaire de le loger dans le nouveau bâtiment qui a été construit en 1880, dans les années 80-82. Il y a très souvent plusieurs écoles dans les bourgs, hein, parce que justement, il y a évidemment les écoles de filles, les écoles de garçons toujours séparées, mais il y a aussi des groupes scolaires où on trouve les deux, mais à l'intérieur du bâtiment, ils sont aussi séparés. Et il y a aussi des écoles libres, privées, qui cohabitent avec les écoles publiques laïques. Jules Ferry, on va souvent prononcer ce mot-là, hein, pendant cette émission. En fait, c'est un dirigeant politique républicain de la Troisième République qui est très important, puisque vraiment, c'est lui qui a rendu l'école gratuite, l'instruction primaire obligatoire, et aussi, il a rendu l'enseignement public laïque. Donc, c'est un personnage assez incontournable. Si je reprends l'exemple de Sept-Fonds et du nombre important d'écoles dans les bourgs, après c'est l'exemple de Sept-Fonds, mais il s'est passé la même chose à Nègrepelisse et à Monclar-de-Quercy, il y a plusieurs écoles qui se succèdent. À Sept-Fonds, c'est assez édifiant. En 1866, il n'y a qu'une seule école à Sept-Fonds, c'est une école privée qui est tenue par les sœurs de la congrégation des sœurs de la Sainte Famille de Villefranche de Rouergue. Et il y a donc cette fameuse école de garçons qui se trouve à la mairie. Ensuite, en 1882, on construit la première école publique du village de garçons. Puis ensuite, en 1903, on construit la première école publique de filles. Et enfin, une école maternelle en 1905, qui est également une école publique. Tout ça pour vous dire qu'en moins de 25 ans, on construit trois écoles à Sept-Fonds, en plus de la première qui était une école privée congréganiste. Alors, tout ce développement est lié à la pression démographique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, la population augmente, hein, dans les villages, dans nos campagnes à cette époque-là. Mais pour le cas de Sept-Fonds précisément, c'est évidemment lié aussi au développement croissant de l'industrie chapelière.
Alors à la fin de ce 19e siècle, hein, les exigences nouvelles de salubrité et de confort vont entraîner un effort sans précédent de construction d'écoles et de mairies-écoles partout en France. Les bâtiments doivent répondre à des programmes qui sont assez précis et pour y répondre, l'État va diffuser des recueils de plans, et ce à partir des années 1880, 1870 même, dans toutes les sous-préfectures, ce qui va annoncer une standardisation des bâtiments d'écoles à l'échelle de la France entière. On va retrouver des écoles que l'on voit en Tarn-et-Garonne, en Pays Midi-Quercy, on va retrouver des écoles assez similaires en Eure-et-Loire, dans le nord de la France. Donc on l'a dit, hein, c'est grâce aux lois Jules Ferry que les bâtiments scolaires se sont largement développés. Alors comment on peut les identifier, ces bâtiments Jules Ferry? Ils sont facilement reconnaissables. Ils ont une maçonnerie qui est marquée par une composition symétrique, des élévations qui vont être ordonnancées, avec très peu de décors, si ce n'est les ouvertures, les chaînages d'angles, qui eux sont soulignés par de la brique rouge et parfois associés à de la pierre. C'est donc à partir de cette période que l'architecture des écoles prend une allure un peu plus monumentale. Une des caractéristiques aussi, c'est que l'on cherche, quand on le peut, à implanter ces écoles en hauteur, ce qui contribue à rendre visible aux yeux de tous cette politique d'aménagement de la Troisième République. On a tenté de le faire à Léo Jacques, par exemple, mais l'exemple le plus spectaculaire est à la Guépy, hein, parce que pour construire cette école en 1892, il a fallu déraser un rocher sur 9 mètres, des constructions de terrasses, des murs de soutènement, pour enfin élever l'école de filles, de garçons et l'école maternelle de la Guépy.
Il y a un autre aussi exemple assez exceptionnel. La Guépy est un très bon exemple, mais celui de Saint-Vincent-d'Autéjac aussi est pas mal. Là, on est sur les coteaux. Et à Saint-Vincent-d'Autéjac, c'est une commune qui devient commune à partir des années 1850 et on décide de construire une mairie-école de la Troisième République en face de l'ancien village et de l'église. Et du coup, il y a une allée de platanes assez incroyable qui mène à cette mairie-école et ça fait un aménagement urbain qui est assez remarquable pour l'ampleur de la commune. C'est assez hors norme. Mais le but, c'est encore une fois de magnifier les principes de la Troisième République.
Les principes hygiénistes aussi occupent une place primordiale dans la conception de ces écoles ou de ces mairies-écoles. Hein. Souvent, la mairie dans ses constructions est associée à l'école. Donc, principes hygiénistes, on va, quand on bâtit ces salles de classe, souhaiter des ouvertures très hautes pour avoir beaucoup de lumière dans les pièces, des classes qui sont aérées aussi, avec, on le disait, ces grandes fenêtres. Quand vous passez à Caylus, quand vous regardez l'actuelle médiathèque qui était l'ancienne école qui a été bâtie par Gardel en 1874, vous regarderez la hauteur de ces fenêtres. On a à peu près les mêmes à l'école de Ceffonds. Et puis, autre principe hygiéniste, quand il s'agit d'une école mixte, pardon, il y a toujours une séparation des filles et des garçons. Les enfants vont utiliser des entrées différentes, des vestiaires différents, les cours de récréation également, les préaux, tout est séparé. Et quand vous regardez, enfin, quand nous, on peut voir le plan des architectes de ces écoles, on observe une symétrie absolument parfaite. Alors ça, on peut le voir aussi également dans la mairie-école de Belmonté. Alors les normes d'hygiène sont très strictes. Il y a une attention particulière qui est portée sur les latrines, hein, sur les toilettes, qui sont le plus souvent reléguées au fond de la cour. Et là encore, on sépare les latrines des enfants, les latrines des instituteurs, de l'institutrice, des filles et des garçons. Alors, l'organisation de ces bâtiments, école ou mairie-école, peuvent se développer sur deux niveaux. Lorsqu'elles se développent sur deux niveaux, on a en rez-de-chaussée deux salles de classe avec au centre la mairie et de part et d'autre la classe de filles et la classe de garçons, comme c'est le cas avec à Veissac. Et aux étages, les logements ou la chambre des instituteurs. Ça, on le voit aussi à Albias ou Léo Jacques. Et puis on a, Carole en a parlé tout à l'heure, ces bâtiments qui peuvent être en rez-de-chaussée, comme l'école de garçons de Ceffonds, hein, qui a été construite en 1882 par Gardel, ou autre réalisation de Gardel, qui a un plan similaire, c'est l'école de filles de Montclar de Quercy, qui n'accueille que les salles de classe. Alors certains architectes ou entrepreneurs, comme Jean Combebiac, utilisent un modèle. Et il ne va pas. Il utilise un modèle dans un territoire assez restreint qui va répéter en différents lieux en modifiant un peu les formules. Ce sont des bâtiments, si vous avez l'occasion de les voir, qui sont très similaires. Il s'agit de l'école de Revel à Veissac ou encore l'école des Tauges aussi à Veissac et l'école de Saint-Maffre à Bruniquel. Elles ont toutes une façade principale qui se développe sur le mur pignon avec en partie haute un petit fronton au centre duquel vous verrez un oculus. Et puis toujours, de part des têtes de ce corps central, sont aménagées deux ailes. D'autres réalisations similaires, mais qui ne sont pas du même architecte, celles-ci sont de l'architecte Labouis, se trouvent à Molière, dans les hameaux de Saint-Christophe et de Saint-Artémie. Elles ont été réalisées en 1879. Alors, si on entre dans toutes ces écoles, il y avait des principes bien établis concernant l'architecture, mais aussi concernant le mobilier. Hein. Le mobilier était prévu dans des circulaires, notamment la circulaire de 1885, qui donne une liste de matériel de base qui est jugé indispensable dans toutes les salles de classe. Alors, ça comprend un buste de la République, une estrade, des tables à deux places et à dossier, un tableau noir, des ardoises, une carte du département, une carte de France, une carte de l'Europe et une map monde, et enfin un poêle, un système de chauffage. Alors, rares sont les écoles qui ont disposé de suite de tout ce mobilier, mais avec l'initiative des instituteurs qui bagarrent un peu avec les municipalités et puis avec l'aide de l'État, les salles de classe vont s'équiper progressivement de tout ce matériel. On a pu retrouver dans un devis estimatif de Léopold Gardel pour la construction de l'école de garçons de Verfeil une partie de ce matériel qui était listé. Donc là, pour Verfeil, il y avait les tables d'école à deux places. Là, il est précisé dans le devis qu'elles ont un banc adhérent conforme à celle adoptée à Montauban à l'école de Villebourbon. Et notez bien qu'il est prévu dans ce devis 40 tables. Donc 40 tables doubles, il y avait une certaine
promiscuité.
Promiscuité, merci. Dans ces classes, puisque par classe, nous avions 80 garçons. Dans cette liste également, le bureau du maître qui était peint en noir, l'estrade, les marches, le tableau noir ardoisé, ici une bibliothèque et enfin un poêle calorifère muni d'un tuyau.
Alors, les écoles congréganistes, c'est quoi ?
Alors, les écoles congréganistes, ce sont des écoles qui sont tenues par des congrégations, par des religieuses, en fait. Donc, des sœurs ou des frères qui délivrent un enseignement qui n'est pas laïque. Alors, elles sont nombreuses, hein, ces écoles, sur le territoire, mais il y a une loi très importante, qui est un des grands textes de la Troisième République, qui s'appelle la loi de séparation des églises et de l'État, qui est promulguée en 1905. Et cette loi entraîne la fermeture de ces écoles tenues par des religieuses. Et c'est vraiment le point d'orgue, en fait, de cette politique de laïcisation qui est engagée depuis les années 80 par Jules Ferry. Et cette loi-là, de 1905, garantit la neutralité de l'État face à toutes les religions. Donc les écoles religieuses doivent fermer. Et vous verrez que c'est pas si simple. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui on repère ces écoles congréganistes sur le territoire ? C'est assez simple. Très souvent, ce sont des petits détails qui sont dissimulés. Par exemple, à Bioul, sur la porte de l'ancienne école privée, il y a le monogramme IHS du Christ. À cette fond, sur l'école des sœurs, il y a l'école Notre-Dame, il y a JMJ, Jésus, Marie, Joseph, qui est sur le portail en fer forgé. Autre exemple, à Parisot, sur l'école de filles, qui est une école privée aussi, qui appartient, tenue par les religieuses de la Sainte Famille, eh bien, il y a une sculpture de la Sainte Famille. Donc, il y a Jésus, Marie et Joseph qui sont sculptés au centre du fronton d'accès à l'école.
Ça peut donc également être une détails. Petite croix au niveau de la lucarne du toit.
En plus, voilà.
L'école de jeunes filles de Neuvial, toujours à Parisot.
Absolument. Voilà, les croix, en effet, c'est l'emblème le plus évident, en effet, le symbole, pardon. Donc, ces écoles congréganistes donc sont tenues par différentes communautés. Hein. Soit c'est les sœurs de Saint-Joseph d'Oulias à Montclar, soit ce sont les religieuses de Notre-Dame du Calvaire de Gramat, à Montricou, par exemple. À Neuvial, c'était les sœurs dominicaines de Monteils, dans l'Aveyron. Voilà, c'est assez divers. Dans ces écoles, il y avait assez souvent des chapelles. Alors, elles sont dissimulées. Très souvent, on les aperçoit à peine. On peut les repérer à une petite fenêtre avec un arc brisé, puis un vitrail. On se dit, qu'est-ce que ça fait là, à l'étage, dans un bâtiment qui ressemble à une maison de ville à étage. En fait, c'est comme ça qu'on réalise qu'il s'agit de la chapelle de l'école privée, qui sert aussi de pensionnat, parce que très souvent, il y a des dortoirs aux étages pour loger les élèves. Les chapelles, généralement, elles sont intégrées dans les bâtiments, mais quelquefois, elles sont indépendantes. C'est le cas à Montclar de Quercy. Il y a une petite chapelle indépendante qui était de la chapelle de l'école des sœurs de Saint-Joseph d'Oulias. Ces présences de chapelles, justement, dans ces écoles privées, à l'heure de la laïcisation, parce qu'on est à la fin du 19e siècle, très souvent, c'est arrivé qu'on les dissimule. C'est le cas de l'école de Caylus de Gardel, qui est censée être une école de filles public. Il se trouve que dans les plans de cet architecte Gardel, la construction de la chapelle, qui est aujourd'hui accueille l'actuel Fab Lab Origami à Quélus, cette chapelle n'est pas mentionnée sur les plans, en fait. On tait son existence, mais l'analyse des archives nous explique pourquoi. C'est que à l'époque, c'était des sœurs qui dirigeaient l'ancienne école, et elles accordent pour la construction de la nouvelle école une subvention qui s'approche de 1/5 du montant global du devis, donc elles arrivent à obtenir le fait qu'on construise quand même une chapelle dans une école laïque. Oui, ça peut paraître comme ça un peu aberrant, mais c'était le cas également à Parisot, l'école laïque de garçons de Parisot, qui est l'actuelle mairie aujourd'hui, était tenue par des frères, alors que c'était une école laïque, et le logement de l'instituteur qui devait être au-dessus de l'école, finalement, a servi de dortoir pour des élèves et trois frères. Donc, bon, évidemment, à la fin du 19e, l'instruction primaire a dénoncé tout cela, et petit à petit, les mentalités se sont faites à cette laïcisation des écoles.
C'est aussi à ce moment-là que les patois et les langues régionales sont interdites en France. Mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Sandrine Rueffli, Carole Stanitsky, un grand merci.
Merci.
Merci, au revoir.
Les capsules du patrimoine, une émission depuis le pays midi Quercy, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr avec le soutien du programme européen Leader, la région Occitanie et le département du Tarn-et-Garonne.